de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec David Brocouet à la réalisation, pour nous interroger, au-delà des fantasmes et des oppositions stériles entre technophiles et technophobes, sur les réels enjeux politiques et géopolitiques des nouvelles technologies. Intelligence artificielle, réseaux sociaux, satellites sont autant d'instruments de puissance détenus non plus par des États, mais par les big tech, ces géants technologiques, ces entités hybrides qui redéfinissent désormais les jeux de pouvoir. et de puissance entre nations et qui interviennent dans les processus électoraux et dans les guerres. Mais jusqu'où? Comment nos cerveaux sont-ils devenus le nouveau champ de bataille du 21e siècle? Et si la boîte noire de la tech n'était pas algorithmique, mais bien politique? Pourquoi est-il urgent de le penser et comment résister si ce n'est par l'innovation politique et démocratique? Notre invitée, la chercheuse Asma Malla, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech et de l'IA, nous interpelle, n'a pas sa langue dans sa poche, dans un essai percutant, technopolitique, paru au Seuil, autour de la question empruntée au sous-titre de son ouvrage « Comment la technologie fait de nous des soldats ?» Bienvenue pour décrypter ensemble ce qui nous arrive.
Dans l'idée de dire que la technologie pourrait faire de nous des soldats, est-ce que ce sont des soldats pour défendre l'humanité ou des soldats contre un projet qui pourrait être imaginé comme, en fait, on va dire, un ordre mondial politique? Et donc, à ce moment-là, si la technologie nous transforme en soldats, est-ce qu'on protège cet ordre mondial politique ou est-ce qu'en fait, ça vient augmenter nos capacités pour qu'on soit en capacité de remettre en cause cet ordre mondial politique? Quel type de soldat, finalement, on va être? Parce que, OK, tant qu'à être soldat, on peut être soldat et défendre une cause, ou plutôt fortifier et protéger un ordre qui existe déjà.
Super question ouverte par Zakaria Tiemtoré de l'École normale supérieure du Burkina Faso, un chercheur aussi interdisciplinaire et indiscipliné que vous, Asma Malla. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous autour de Technopolitique. C'est votre essai sous-titré « Comment la technologie fait de nous des soldats ?» Alors comment et quel genre de soldats pour répondre à la question de Zakaria Tiemtoré?
Ça démarre très très fort. Déjà, sur la question de pourquoi est-ce que nous serions tous, tout d'un coup, là, des soldats? Alors, je sais que c'est très, très à la mode en France en ce moment d'absolument tout militariser. Bon, il se trouve que moi, j'avais écrit le livre bien avant ça, mais...
C'est ça, hein, il n'est pas question de nous remilitariser, de nous réarmer, c'était pas du tout ça le propos.
C'était pas tout à fait ça, ou en tout cas, pas tel que ça a été mal compris par l'exécutif. Sur la question de quel est le combat, finalement? Qu'est-ce que... Soldats pour défendre quoi? Il y a deux sous-questions qui sont posées, hein, par le chercheur qui pose les termes de l'équation technopolitique. Ce que j'écris dans le livre, c'est que ce qu'il faut absolument comprendre, c'est un changement de paradigme majeur. C'est-à-dire qu'on a changé de siècle, qu'on a changé d'époque et que ces technologies que j'appelle les technologies de l'hypervitesse, comme clin d'œil à Paul Virilio, grand philosophe de l'accélération, sans doute le meilleur et probablement l'un des premiers, en fait, s'articulent autour de quoi? Ce sont des technologies qu'on peut énumérer, intelligence artificielle générative comme ChatGPT, les réseaux sociaux. Aujourd'hui même, on parle des implants cérébraux Neuralink de Elon Musk, Starlink, toujours, de la X-Corp, enfin de la galaxie X-Corp de Elon Musk, qui sont ces satellites en orbite basse et qui sont censés connecter le monde d'une certaine façon. Donc toutes ces briques, si vous voulez, technologiques, qu'on a pris l'habitude à tort collectivement de traiter un peu en silo, en pièces détachées, en fait font système. D'une part, elles font système, et dès l'instant où ça fait système, ça pose des questions structurelles politiques vertigineuses, majeures, qu'on ne peut pas lire et qu'on ne peut pas comprendre si on ne traite que les briques technologiques.
L'IA d'un côté, les implants cérébraux de l'autre, les satellites de l'autre.
C'est l'erreur collective fondamentale qu'on a faite ces deux dernières années, c'est-à-dire que c'est du buzzword et de l'actualité chaude. Or, en fait, il faut prendre du recul et les mettre en lien parce qu'elles font lien. Et quel est le lien entre elles? Au-delà que ce soit des technologies de l'hypervitesse, c'est qu'en fait, elles font système et quelles sont en réalité l'infrastructure technique, mais aussi civilisationnelle, à partir de laquelle finalement, quand on y pense, se déploie absolument tout le reste. Le fait politique, le fait économique, le fait industriel, le fait militaire, l'information, le rapport aux autres, les processus de subjectivation, tout aujourd'hui passe par ces technologies-là.
Et voilà pourquoi, à ce moment-là, votre livre s'intitule « Technopolitique ».
Absolument, c'est la
jonction. La technopolitique, les technopolitiques, oui. C'est au fond une sorte de nouvelle science interdisciplinaire qu'il faut concevoir comme ça.
Absolument, absolument. Et qui est à la jonction de quoi en fait, c'est Heidegger, mais il faut absolument que je réponde quand même à la question initiale. Mais Heidegger nous disait l'essence de la technique n'est pas technique. C'est-à-dire qu'on peut ergoter des heures, des jours. Alors, c'est facile de prêcher pour ma paroisse. Moi, je parle depuis où ? Depuis les sciences politiques et la théorie
politique.
Vous
êtes chercheuse en sciences politiques à l'EHESS. Absolument. Et spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech et de l'IA.
Et vraiment de ces nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont en train de s'articuler entre géants technologiques et États. Donc, je ne suis pas data scientist. En revanche, et c'est bien tout ça qu'il faut articuler parce que je ne le suis pas et que le data scientist n'est pas, lui, politologue, qu'il faut bien qu'on se parle et qu'on essaie de comprendre quel est ce nouveau système qui est en train d'éclore. Et pour continuer un peu sur le changement paradigmatique, quand vous comptez le nombre d'acteurs qui produisent et conçoivent et mettent sur le marché ces technologies-là, vous pouvez les compter littéralement sur les doigts de deux mains. Et ils s'appellent géants technologiques. Ils s'appellent Sam Altman, ils s'appellent Elon Musk, ils s'appellent Microsoft, ils s'appellent Google, Amazon, Peter Thiel. Et donc, il y a une privatisation de technologies qui font système. Et enfin, et le dernier élément majeur, et là je réponds beaucoup plus frontalement à la question, et pardon pour ces détours, mais c'est important de poser les choses, elles sont duales. C'est-à-dire qu'elles sont, by design, par nature, à la fois civiles et militaires.
Ces technologies sont et civiles et militaires. Et ça, il ne faut pas l'oublier à chaque fois et toujours.
Elles sont toujours duales. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? On peut s'y exposer, sympa, vous allez mettre des opinions, relayer des trucs et des machins, vous allez vous raconter, mettre même ce que vous avez mangé, la sieste du chat, etc. C'est ludique, ça peut être très très pratique. Amazon, 3 clics, vous avez acheté votre truc. C'est top, c'est génial, bravo et merci. Mais en fait, et en même temps, ce sont des armes de guerre. Ce sont des espaces d'influence qu'on appelle les conflictualités cyber-hybrides sous le seuil invisible de manipulation, d'influence, d'ingérence. Et donc, et le problème, et la grande différence, souvent on m'a dit, oui, mais alors Asma, vous savez, les technologies duales, ce n'est pas tellement nouveau, le nucléaire s'en est, etc. Non, la nouveauté, qui est parfaitement inédite, elle est de deux ressorts, c'est qu'elle est dans votre poche.
C'est ça, qu'on la transporte tous, chacun.
Elle est dans votre poche. Mmh. Elle est votre usage. Et vous êtes donc, par définition et en conséquence de quoi ? Une cible. Dès l'instant où vous devenez une cible potentielle, vous êtes un soldat.
C'est-à-dire qu'on est et soldat et cible, en fait. On est les deux en même temps, c'est ça. Et sans s'en rendre compte.
Sans s'en rendre compte, parce qu'on le voit très bien sur les questions informationnelles, par exemple, les luttes informationnelles. Et là, on est dans une année très critique 2024. Là, en Europe, on a bientôt les élections européennes. Mais en fait, en novembre, on va avoir les États-Unis. Il y a eu l'Argentine. Enfin, on est sur une année électorale où, ça c'est un poncif, la moitié de la population mondiale est appelée aux urnes d'une façon ou d'une autre. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, dans le nouvel échiquier géopolitique, qui en fait se répercute dans le cyberespace de façon quasi symétrique, vous avez une arme qui coûte absolument pas cher, à bas coût, qu'on peut industrialiser, qui s'appelle la désinformation. Et maintenant, en plus, on a les IA génératives, c'est quand même extraordinaire. Donc on a cette espèce de continuum entre réseaux sociaux et des IA génératives qui vont générer quoi ? Du contenu, du deepfake, vous savez, ces vidéos complètement bidouillées, qui peuvent faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et ce qui est absolument génial quand on fait le retour d'expérience de l'Argentine, j'en parle souvent parce qu'on n'en a pas du tout parlé en France et ça m'a toujours étonnée.
Les élections en Argentine.
Les élections. Javier Milei, quand il gagne, et quand on regarde un peu comment ça s'est structuré autour de ces technologies de l'hypervitesse, c'est complètement dingue. Il faut absolument qu'on l'ait bien en tête et on ne l'a pas en tête, on ne l'anticipe pas assez. Ce qui a compté dans les deepfakes, ce n'est pas du tout leur authenticité, qu'elles paraissent authentiques. Elles étaient ultra grossières. Ça se voyait que c'était faux. Et ça n'a pas compté.
Peu importe.
Peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir un support de la colère. Le support qui va détruire et nuire le camp d'en face. Que ce soit pur et parfait d'un point de vue technique, on s'en fiche.
Même si c'est complètement nul, si ça marche un peu, le but est atteint. Le but antidémocratique.
Ouais. En fait, c'est ce qui va permettre, si vous voulez, d'hystériser, de polariser, de brutaliser. Et c'est ce qu'on a appelé les cheap fakes. cheap, comme ça n'a pas de valeur en anglais, c'est cheap.
Mais ça brutalise, mais ça militarise. Alors, vous avez parlé à ce moment-là des élections en Argentine, vous avez parlé aussi des prochaines élections européennes. Hein. Ce week-end, sur RFI, dans la chronique média, je propose d'écouter Amaury de Rochegonde, parce qu'il revenait justement sur les risques de manipulation de l'information, et en particulier via l'intelligence artificielle. On l'écoute.
L'IA, oui, et surtout l'IA génératif qui peut être un outil au service d'États étrangers qui cherchent à perturber les élections européennes du 9 juin. On pense évidemment à la Russie, car il y a des précédents. En septembre dernier, avant les élections en Slovaquie qui ont porté le pro-russe Robert Fico au pouvoir, une journaliste, Monika Todova, a été victime d'un hyper-trucage de sa voix dans une fausse conversation avec le dirigeant du parti progressiste slovaque. L'avant-veille du scrutin, cette mise en scène à base d'IA, qu'on appelle aussi deepfake, a été abondamment partagé sur les réseaux sociaux pour faire croire à l'organisation d'une fraude électorale. Le procureur a ensuite ouvert une enquête pour diffamation alors que la police refusait d'enquêter. Mais Reporters sans frontières voit dans cette affaire un signal d'alarme. Il est impératif, dit-elle, de mettre nos démocraties à l'abri de ces manipulations.
Mais comment, à ce moment-là, je vais vous faire réagir, comment est-ce qu'on met nos démocraties à l'abri de ces manipulations qui sont partout et que vous, non seulement vous les dénoncez, vous nous donnez des pistes d'ailleurs, mais au moins s'en rendre compte, nous rendre compte qu'on est entré dans l'ère de la technopolitique et de la brutalisation et de la polarisation, tout ça va avec.
Tout ça, évidemment, va avec, c'est un peu le package qu'on nous propose, que ces technologies-là, mal gouvernées, parce qu'elles sont mal gouvernées aujourd'hui, nous proposent. Et la question, et vous le disiez en introduction, et évidemment, j'abonde, et merci d'avoir posé les termes d'emblée comme ça, il ne s'agit pas d'être contre.
Oui, c'est ça, on n'est ni technophobe ni technophile, puis c'est pas un non-sens. Et on ne va pas reparler de ChatGPT ou d'intelligence artificielle uniquement pour, contre. Non, qu'est-ce que ça fait de nous et comment y résister?
Exactement. Et comment mieux gérer? Comment mieux gérer, utiliser? Comment les comprendre? Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être diffusé. En effet, et on le dit, et aujourd'hui, j'espère en tout cas que la prise de conscience commence vraiment à se diffuser massivement, qu'il faut faire attention, qu'on est en démocratie, et parce que nous sommes des démocraties, quand nous sommes en démocratie, nous sommes donc pour eux, puisque nous avons en fait notre trésor, les libertés, les droits fondamentaux, la liberté d'expression en l'occurrence, sont à la fois notre trésor et ce qu'il faut défendre, mais en même temps ce qui permet d'immiscer le ver dans le fruit. Et ce qu'on observe aux États-Unis et qu'on commence à observer ici aussi, enfin en Europe occidentale en tout cas, mais en fait un peu partout, en Afrique aussi de la même façon, c'est qu'il y a une convergence extrêmement toxique, on va dire, entre les opérations d'ingérence, de manipulation de l'information, de narratifs qui sont injectés pour déstabiliser, mais en fait qui convergent vers quoi ou avec quoi, avec les groupes, si vous voulez, séparationnistes qui commencent à se structurer au sein des démocraties. Des démocraties, d'ailleurs, qui sont fatiguées. Et donc, vous avez les complotismes, les conspirationnismes. Aux États-Unis, les QAnon, par exemple, sont un cas d'étude ultra intéressant parce qu'ils récupèrent quoi dans leur vision toujours anti-système, contre. On est toujours contre quelque chose. On n'est jamais pour, vous l'aurez remarqué. On est juste contre.
Et ces technologies, elles nourrissent le contre, justement.
Parce qu'il y a cette chose qui est absolument fondamentale à comprendre. Il y a le modèle économique des plateformes qui est aujourd'hui basé sur la viralité, c'est-à-dire la captation cognitive. Plus vous allez passer de temps sur une plateforme, plus vous allez produire de la donnée, plus en fait vous allez créer de la valeur monétaire, enfin financière ou économique pour ces trucs, pour ces plateformes. Et les réseaux sociaux en l'occurrence et en particulier. Et donc en fait cette captation, économie de l'attention, captation cognitive, on appelle ça comme vous voulez, eh bien ça encourage la viralisation des contenus les plus polarisants, les plus brutaux, qui vont aller flatter nos passions tristes. La peur, la colère, la haine, c'est ça qui capte l'attention. Pour une raison très simple, et ça c'est Daniel Kahneman, prix Nobel, qui le disait dans son best-seller d'ailleurs. En fait, si je schématise de façon ultra simple le fonctionnement du cerveau, on a deux grands systèmes. Le système 1, qui est celui des réflexes, des biais, des croyances, des désirs, des fragilités égotiques, du narcissisme malade, de ce que vous voulez. En fait, votre Pavlov. Et le système 2, qui est celui du discernement, de la réflexion, du temps plus long, du froid versus le chaud. Et toute la difficulté, le modèle économique fonctionne sur le système 1. Tout notre enjeu, vous disiez, comment on fait ? Il va falloir qu'on installe de nouveaux réflexes cognitifs. Le système 2, c'est le Canada qui avait un tout petit peu d'ailleurs expérimenté ça pendant la crise Covid. En comprenant bien, tout comme la France d'ailleurs, elle avait expérimenté que toutes les communications verticales depuis l'État vers la population ne fonctionnaient pas. Il y avait une défiance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Stop Covid, ça a été un bide intersidéral. Parce qu'il y avait un manque de confiance au-delà de l'opacité, du manque de clarté, de la difficulté de communication. Parce que le lien démocratique, le contrat social est fragilisé, il est de fait. Et on parlait tout à l'heure de technopolitique. La question n'est pas technique, elle est politique. Quel est notre modèle ? Quel est le nouveau modèle qu'on met en place ? Et au Canada, ils ont expérimenté ça.
Et vous dites, alors vous dites notre cerveau est le nouveau champ de bataille du 21e siècle. Un de vos chapitres s'intitule « La guerre cognitive en démocratie ». Parce qu'on en est là, en fait. C'est là où vous voulez nous alerter et nous dire attention. Mais finalement, est-ce que c'est un... Alors, on ne va pas aller dans la théorie du complot, mais c'est juste que ce ne sont plus les États qui ont la mainmise, ou alors les États en collaboration avec les big tech. C'est ça le gros problème, finalement, le gros problème démocratique, et pourquoi c'est de la technopolitique.
Exactement. Alors, sur la question de la guerre cognitive, ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes de doctrine militaire, ce qu'on est en train d'essayer de construire et de formaliser sur la doctrine des guerres cognitives, c'est de dire, aujourd'hui, on avait les luttes informationnelles, en gros, ce qu'on a appelé, qui n'a rien de nouveau sous le soleil, dans les années 30-40, ça s'appelait la propagande.
C'est ça.
Mais ce qui est nouveau, c'est la viralité extraordinaire par les réseaux sociaux et par cette difficulté de gouvernance d'espaces publics, mais qui sont quoi ? Qui sont totalement hybrides, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont à la fois des espaces publics, mais des entreprises privées, américaines, qui rendent des comptes à quoi ? Au marché ou à elles-mêmes quand elles sont sorties de la cote, comme X-Twitter avec Elon Musk, qui ne rendent des comptes qu'à lui-même à la fin des fins. Ils ont viré tous les modérateurs possibles. Et de toute façon, c'était un placebo, cette histoire de modération. On pourrait y revenir, mais je crois que la modération arrive par définition trop tard par ces mécanismes de viralité exponentielle, en fait, où un contenu peut faire le tour du monde en quelques secondes. Donc, de toute façon,
la solution, c'est de nous armer. Quand vous parlez de soldats, c'est exactement. Au fond penser les choses et nous armer nous-mêmes, être conscients de ce gouffre énorme qui est devant nous.
Et il va falloir qu'on change de lunettes parce qu'on a changé de paradigme, on a changé de siècle. Et c'est un géographe français dans les années 70 qui s'appelait Olivier Dollfuss qui disait « Quand vous avez un problème qui change d'échelle, c'est qu'en fait, il a changé de nature. Mmh, on a changé de nature du problème. Or, les solutions qu'on oppose, réglementaires essentiellement, sont toujours les mêmes et issues d'institutions du XXe siècle. » Exemple, la modération. Je ne dis pas, ou le fact-checking, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce sont des marqueurs démocratiques.
Mais il faut passer quoi ? À la vitesse supérieure ou à autre chose complètement ?
Ça ne suffit pas. Il faut le faire parce que, encore une fois, c'est une question d'expliquer que ça fait partie, c'est un socle de ce qu'on appelle une démocratie. Fact-checker, vérifier les faits, ne pas raconter n'importe quoi.
Modérer,
permettre un débat public. Il y a aussi la loi, mais une loi qui date du 19e siècle en France, par exemple, sur ce qui est légal, ce qui est illégal. Le problème de la désinformation, des ingérences, c'est que souvent, ils s'immiscent dans une zone grise, qui est allégale. Ce n'est pas illégal ce qui est dit. Je rappelle, démocratie, liberté d'expression. Donc comment est-ce qu'on refonde notre acception et notre rapport à l'autre, à la conversation démocratique, quand tout est brutal, quand tout est militarisé en permanence ?
Vous êtes une révolutionnaire à ce moment-là. Il nous faut devenir des révolutionnaires quelque part.
Il nous faut redevenir une société politique. Et l'erreur qu'on a faite, qui vient d'ailleurs de la doxa, comme d'habitude anglo-saxonne, dans son pire et dans son meilleur d'ailleurs. C'est ce qu'on a appelé la société civile. C'est une construction politique pour expliquer qu'en fait, il va falloir que depuis la société, vous ayez des watchdogs, donc des ONG, des associations, etc.
Qui soient des lanceurs d'alerte,
qui fassent tout ce travail, si vous voulez, de lien politique et de mener des combats. Mais le problème qu'on a eu, c'est que d'une part, ils servent, si vous voulez, un peu de passe-plat de prétexte, enfin d'excuse à avoir soi-disant bien fait. Exactement, enfin j'allais dire de vaseline, mais
c'est pas bon. Allez, revenons à notre tech.
Mais donc la société civile arrive un peu à la limite parce qu'elle est, d'une certaine façon, quand on emmène l'exercice dans ses extrêmes, un tout petit peu instrumentalisé. On le voit dans les institutions multilatérales, etc. Ou même dans le Digital Service Act, qui est le grand texte européen, si vous voulez, pour la régulation et la réglementation des réseaux sociaux. On va mettre des trusted flaggers, ce qu'on appelle les trusted flaggers. Donc c'est
traduction.
C'est tiers de confiance, voilà exactement, que peuvent être les ONG ou les associations qui vont, si vous voulez, capter, identifier les contenus à modérer. Bon, très bien. Mais on voit bien qu'on est à une limite du modèle. Une société politique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, comprenne les enjeux, qu'on ait ces nouveaux réflexes cognitifs. Je parlais de Kahneman tout à l'heure. Il faut quoi ? 2-3 secondes pour passer du système 1 au système 2. Est-ce que c'est trop demandé que, avant de faire n'importe quoi, chérir, liker, follower,
attendre une seconde, 3 secondes.
3 secondes, on va aller faire Caroline. 1, 2, 3.
On va même faire bien plus à ce moment-là, autour de la question comment la tech fait de nous des soldats et comment nous armer justement pour être des bons et pas des mauvais soldats, et pourquoi c'est une question technopolitique, pour reprendre le titre de votre essai à ce moment-là. Mais on va maintenant prendre 3 minutes pour se poser, s'interroger à l'écoute de votre choix musical. Vous aimez particulièrement Bowie,
ouais,
et Brian Eno.
Ouais.
Alors nous, on a choisi Heroes, c'est pas héroïne, mais Heroes sur RFI. David Bowie et Brian Eno sur RFI, c'est pour vous à ce moment-là.
Merci.
Hein, notre héroïne, puisque nous pouvons tous devenir des héros. Hein. Vous êtes, je rappelle, chercheuse en sciences politiques, spécialiste en politique et géopolitique de la tech et de l'IA. Autour de la question empruntée au sous-titre de votre essai, alors notre question c'est comment la technologie fait de nous des soldats. Votre essai s'intitule Technopolitique. Vous n'êtes pas heureusement la seule, à oser interroger les réels enjeux de pouvoir et de puissance de la tech, des big tech, de toutes ces technologies de l'hyper-vitesse, comme vous dites, à la fois civile et militaire. Je propose un éclairage vu d'ailleurs, vu depuis Montréal, au Canada, par le philosophe Marcello Vitali Rosati, qui est professeur au département de littérature de langue française à l'Université de Montréal. Il s'intéresse et travaille, lui, sur la manière dont les technologies numériques modifient notre façon d'être au monde. Et il est l'auteur d'un ouvrage, Éloge du bug, qui est à paraître aux éditions de La Découverte. Notre reporter Charlie Dupuy lui a demandé justement pourquoi faire l'éloge du bug, pourquoi le bug est non seulement possible pour Marcello Vitali Rosati, il est même souhaitable. On l'écoute.
Nous vivons dans une société, dans des sociétés dans lesquelles l'impératif qui semble naturel et universel est celui que j'appelle l'impératif fonctionnel. Il faut que ça marche. Il semblerait presque irrationnel de ne pas accepter cet impératif. J'utilise cet outil parce que ça fonctionne bien. Les outils technologiques les plus répandus, ceux qui sont diffusés par ce qu'on peut appeler les GAFAM, hein, avec cet acronyme qui renvoie aux grandes sociétés de la Silicon Valley comme Google, Facebook, Apple, et en fait implémentent complètement une vision du monde et pour autant elles voudraient nous faire croire qu'elles sont neutres. Alors l'éloge du bug vient de ça, vient du fait de se dire « et si on allait rechercher une multiplicité ?»« Et si on essayait d'avoir une multiplicité de modèles et de visions du monde ?» Ben, la première chose à faire, c'est qu'on doit bloquer ce flux de fonctionnement et de productivité. On doit faire en sorte de stopper l'impératif fonctionnel. Donc il faut que ça ne marche plus. C'est le moment où ça se casse, hein, le bug, il arrive, pour première chose, il casse les fonctionnements, donc il l'arrête, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à réfléchir, qu'on peut se poser des questions. Alors, ce qui m'intéresse du bug, c'est qu'il est selon moi une structure profondément philosophique. Le bug par excellence, ou le premier bug, est celui de Socrate qui reste bloqué pendant qu'il marche et il n'est pas capable de faire ce qu'il est en train de faire. Très souvent, il le dit, hein, c'est les démons philosophiques de Socrate qui le bloquent, qui l'arrêtent, qui lui empêchent de faire ce qu'il est en train de faire. Et en fait, quand il est là bloqué, il a l'air un peu bête, hein, il ne fonctionne pas, en effet, il dysfonctionne et il bug, il plante. Mais c'est là que la philosophie émerge. C'est là que la possibilité de penser autrement naît, si nous voulons être libres. La condition pour être libre, c'est justement ce déclenchement de pensée critique, c'est ce déclenchement d'une pensée qui permet la multiplicité.
Et vous, hein, comme Socrate, vous dites que vous buguez, vous écrivez que vous n'avez pas de smartphone, et donc vous dites « sans smartphone, je ne fonctionne pas, je bug ».
C'est un choix, celui de ne pas avoir des smartphones que j'ai fait justement pour ça, pour voir comment on a normalisé et naturalisé un impératif qui est celui d'avoir une technologie dans ses poches. Donc ne pas avoir un smartphone m'oblige à ne pas fonctionner. En effet, j'arrive pas à faire un virement en banque, j'arrive pas à m'identifier sur le portail de l'administration publique. Et ça, par contre, ces dysfonctionnements, cet arrêt, m'oblige à réfléchir. Est-ce que c'est normal que l'identification, la reconnaissance de mon identité dans un contexte de relation avec mon administration publique s'efface via Google ou via Apple ? Qu'est-ce que ça pose, ça, comme question? Et alors, c'est là que la pensée philosophique, à mon avis, peut émerger. En fait, ça veut dire que des questions d'autorité ont été déplacées. Alors après, on souhaite peut-être ne plus dépendre de l'État, mais dépendre de Google, mais c'est en tout cas ce qui est en train de se passer.
J'imagine que vous voulez réagir à ce moment-là, à cet éclairage du philosophe Marcello Vitali Rosati, auteur d'un éloge du bug à paraître aux éditions de La Découverte.
Alors, c'est passionnant ce qu'il pose comme débat et comme surtout pas de côté. Sur la question du bug, c'est assez intéressant et c'est même drôle parce que la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, donnait une interview pour le podcast de Bill Gates, donc à Bill Gates, qui était l'ex.
Sam Altman à Bill Gates.
À Bill Gates, exactement, puisqu'ils sont copains, hein, c'est Microsoft.
Bien sûr.
Bon. Et donc, il expliquait... Donc, ça fait une résonance dingue, en fait, mais c'est... Ça fait une résonance dingue et je vais expliquer un peu ce que j'ai en tête. Donc, je découvre l'extrait. Donc, je suis en train de réfléchir en direct. Mais Sam Altman disait que, justement, les hallucinations de ChatGPT, donc le bug, étaient non pas un accident industriel comme ça qu'on devrait corriger, mais que ça ne serait pas corrigeable, et qu'en fait, que ça allait devenir un élément structurel de l'avancée scientifique.
Le bug.
Donc c'est hyper intéressant, cet effet miroir du philosophe qui parle finalement au technologue, idéologue, qui est Sam Altman, puisque les deux ont une pensée très particulière du bug, et en fait, l'un est le miroir de l'autre. Et ce que dit le chercheur canadien, pardon, dont je n'ai pas le nom, je suis désolée.
Le philosophe Marcelo Vitali Rosati.
Donc Marcelo, ce qu'il dit en fait, c'est là où il a raison et là où ça pose une question politique plus que philosophique, politique dans la continuité de la pensée philosophique et qui est fondamentale et c'est celle que moi je pose dans le livre. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord, mais à condition de rester inscrit dans une forme de réel politique, c'est de ne pas rêver, de ne pas fantasmer, ce qui n'est aujourd'hui pas possible. Mais donc je m'explique. Ce qu'il dit, c'est en fait le bug, c'est ce qui permet de bloquer la machine, de la rouiller d'une certaine façon, de prendre cette décélération. On peut parfaitement décélérer avec la technologie, c'est une question aussi. C'est ce que je dis, c'est parce que ça va trop vite qu'il faut que l'on décélère. Ça, c'est clair et c'est net.
Mais de toute façon, on ne peut pas s'en passer de la technologie. Ce philosophe, voilà, surtout, il peut ne pas avoir de portable. Ouais. Je connais quelques physiciens qui n'en ont pas, mais dans la vie courante, on ne peut pas. Il nous faut. Enfin, sinon,
c'est une question de portable. C'est une question qu'à la fin, le soir, vous allez rentrer, vous allez au bureau, vous allez quand même répondre à vos mails, allez quand même acheter vos billets d'avion là, vos billets de train ici, etc. Donc, à moins de faire une espèce de révolution copernicienne, intérieure, existentielle, et d'aller vivre dans la nature comme un David Thoreau, de toute façon, elles font système. On revient à la première question initiale. Mais ce qui est intéressant dans la question du bug, en fait, c'est ce qui... il utilise le bug de façon très intéressante et maligne pour en fait déconstruire la doxa néolibérale du scientisme, de l'efficience, de la performance permanente. L'innovation pour l'innovation comme fin en soi. Or, et c'est là où je suis parfaitement d'accord et c'est ce que je dis dans Technopolitique, c'est en fait pas la technique qui compte. La technique est un outil et un véhicule. Mais pourquoi faire ?
Et c'est cette question-là qu'il faut qu'on se pose.
Et qu'on ne se pose pas.
Et qu'on ne se pose pas face à ces technologies de l'hypervitesse que vous rappelez.
Pourquoi donc, faire ?
Voilà. Et
c'est
pourquoi
quoi
faire ?
Le projet ?
C'est ça.
C'est quoi ?
Et des technologies qui sont duales, civiles et, civiles et militaires.
Et c'est
les
quoi
deux, hein.
C'est la démocratie ? Et si oui, quelle est-elle ? Sous quel format ? C'est le climat ? C'est les inégalités ? C'est quel type de progrès ? Celui de la connaissance ? Pourquoi faire ? Bernanos disait la liberté, pourquoi faire ? Et moi, j'ai envie de dire la technologie, pourquoi faire ? Et donc, en fait, le véritable alignement, vous allez voir, alors tous ceux qui s'intéressent à tous ces sujets-là, on nous a bassinés avec la question de l'alignement de la machine, donc des algorithmes, des modèles, avec les objectifs de l'homme, donc en fait de l'entreprise qui les conçoit. Comment est-ce que, par exemple, le ChatGPT d'OpenAI est aligné aux objectifs d'OpenAI ? Non ! Le véritable alignement n'est pas celui-là, pardon. Le véritable alignement, c'est comment les géants technologiques, qui sont aujourd'hui des acteurs système. Et d'ailleurs, moi, j'utilise pas du tout l'acronyme GAFAM ou GAMAM. Oui. Parce qu'en fait, ça invisibilise certains, ça survisibilise d'autres.
Bon, c'est vite les big tech.
Plus compliqué que ça. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont pas dans l'acronyme, qui sont systémiques et fondamentaux et sur lesquels il faut pas faire l'impasse, par exemple. Mais toujours est-il que la question, ce n'est pas l'alignement tellement du modèle ou à l'entreprise, c'est l'alignement des big tech à notre projet, à nous de société. Et si on le pose comme ça, l'inversion de la proposition prend son sens et devient politique ou technopolitique. Quel est notre projet ?
Voilà, encore faut-il qu'on ait un projet et qu'on le développe, donc qu'on redevienne, vous êtes chercheur en sciences politiques, ce n'est pas pour rien, politique. Finalement, c'est ça que vous dites aussi.
Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Quel est notre projet ? C'était pas Emmanuel Macron qui le hurlait en 2017 ? Et ça a donné quoi ? Ça a donné un discours en janvier 2024 qui nous expliquait que peut-être il va l'interdire les écrans pour les jeunes et les mineurs.
Mais c'est pas ça, on est à côté de la plaque.
Mais c'est un anachronisme fou. Si c'est ça le projet, mais non, mais on arrête tout en fait.
Alors quel projet ? Comment ne pas tout arrêter ? Je vous propose un nouvel éclairage. Comment dire ? Une nouvelle piste en forme de question pour vous, Asma Mala, soulevée par mon confrère, rédacteur en chef du mensuel Pour la Science, François Lassagne, on l'écoute.
Ce que vous décrivez du monde de la technologie numérique d'aujourd'hui, en nous, utilisateurs qualifiant de soldats ou quasi-soldats, en tout cas n'ayant pas trop le choix que d'utiliser ce qui est là, c'est-à-dire des grandes plateformes tenues par de grandes corporations internationales très puissantes, ça, c'est d'une certaine manière là où on est arrivé après qu'on ait oublié toutes les utopies du web dans les années 80-90. Est-ce que vous pensez que oublions le web, mais est-ce que vous pensez que toutes les plateformes utilisant de l'IA, qu'on voit arriver partout pourrait être conçu autrement? Est-ce qu'il y a encore un espace pour des systèmes contenant de l'IA qui soient tenus de manière ouverte, transparente? Est-ce qu'on peut espérer le retour de l'open source et d'un accès, encore une fois, plus transparent à ce dont sont faites ces machines, et surtout avoir la main sur ce qu'elles sont censées faire ou pas faire? Ou est-ce que nous sommes désormais trop tard enfermés dans des plateformes très puissantes et fermées?
Votre réponse à ce moment-là, trop tard ou pas trop tard?
Ça n'est jamais trop tard.
Ah, merci.
Par définition, jamais. Je veux dire, la principale boîte noire, c'est notre avenir. C'est ce qu'on va décider de bien vouloir en faire. Et donc, ça nous appartient. Je parlais de société politique, c'est à nous autres de nous politiser par rapport à des processus de dépolitisation. Nous ne sommes pas que des consommateurs avachis, fatigués, cyniques. Nous sommes aussi des citoyens. Et il va falloir qu'on reprenne le contrôle et la pleine conscience de notre rôle politique dans l'agora, dans ce qui fait du commun. Or, ce sont des technologies qui, en effet, parce qu'elles sont conçues comme elles sont conçues, c'est-à-dire avec des agendas idéologiques, avec des modèles économiques.
Agendas idéologiques, au fond, partagés par toutes ces big tech.
Enfin, c'est pas toujours les mêmes.
C'est pas les mêmes, mais il y a toujours la question du pouvoir, de la puissance.
Toujours. C'est ce que j'appelle le projet de technologie totale. Après, c'est chacun va avoir sa sensibilité, son appréhension, son niveau d'intentionnalité et de formalisation de son projet. Mais dans tous ces géants technologiques-là, de toute façon, il n'y a eu que des scandales de pouvoir arbitraire, de centralisation du pouvoir, les Facebook Files, Cambridge Analytica, Elon Musk, Altman qui s'est fait débarquer, qui revient. De toute façon, il y a des enjeux idéologiques ou d'agenda politique qui s'en servent d'ailleurs, c'est assez marrant, dans les élections américaines. Aujourd'hui, des Elon Musk ou des Peter Thiel sont des isolationnistes qui tendent vers l'alt-right, pour Peter Thiel, en tout cas, qui la finance. Musk refuse encore de financer officiellement, en tout cas, Donald Trump, j'allais dire Elon Trump.
c'est un joli lapsus.
Mais parce qu'ils se ressemblent vachement.
Mais c'est ça.
Ils ont la même structure psychologique que les Poutine, Elon Musk. Je fais une parenthèse parce que j'adore cette parenthèse.
Même combat.
Elon Musk, Donald Trump et Vladimir Poutine, pour moi, ont la même structure psychologique de toute façon. Ce sont des gourous avec des failles de reconnaissance absolument terribles.
Et qui se servent des big tech pour arriver à leur fin, pour véhiculer leur pouvoir et augmenter leur puissance.
Et qui se servent? C'est-à-dire que c'est bidirectionnel. Les géants technologiques aujourd'hui sont l'infrasystème. C'est ce que je dis dans mon livre. Ce sont des infrastructures socles et civilisationnelles. Elles ne sont pas un acteur parmi d'autres. Elles sont l'infrastructure à partir de laquelle se déploient beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pour répondre plus directement à la question open source, etc., oui, ce sont des modèles qui se ferment. Mistral, qui était la proposition un peu souveraine en open source française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé, elle a fait un partenariat avec Microsoft à partir de laquelle elle va déployer ses services. C'est le CQFD, c'est la preuve du concept de mon bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, merci Mistral d'une certaine façon, mais c'est exactement ce qui est en train de se jouer.
On n'arrive pas à tenir cette promesse du début, mais on pourrait. Enfin, je veux dire, on pourrait.
On ouvre la principale boîte noire qui n'est pas tellement algorithmique ou pas directement, qui est celle de la gouvernance de ces géants technologiques. Mmh. Aujourd'hui, je l'ai dit, ce sont des entités hybrides, c'est-à-dire ce sont des boîtes privées qui rendent des comptes au marché, mais qui sont à la fois des espaces publics, des infrastructures, qui, à partir de laquelle se déploie absolument tout le reste et qui en plus ont ces intrications ultra ambivalentes avec les États sur les questions de technosurveillance, par exemple. Donc dès l'instant où on a posé ça comme hypothèse de départ, et c'est mon hypothèse de départ, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on revoit une gouvernance plus, disons, élastique. Comment est-ce que, tout d'un coup, on entre dans la décision politique de ces boîtes-là, qui sont des entreprises systémiques? Et aux États-Unis, est apparu un débat qui expliquait que peut-être, c'est lors du procès de la famille Gonzalez contre Google, qui disait, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de leur donner le statut de common carrier, c'est-à-dire de transporteur public, au même titre?
Ce sont des transporteurs publics d'informations, évidemment, évidemment. Et ça soulève des questions. Alors, sur nos réseaux sociaux, de la part de nos auditeurs, il y a Patrick Chibang à Lubumbashi, donc en République démocratique du Congo, qui nous dit, mais on est effectivement en plein combat à mener pour nous libérer de ce carcan, mais il cite aussi les attaques cybercriminelles, les arnaques multiformes. On a aussi une de nos fidèles auditrices à Madagascar, Aina, qui nous dit, mais comment est-ce que tous les peuples pourraient y arriver? C'est-à-dire que cette question, elle se pose sur tous les continents, et elle se pose beaucoup sur le continent africain, où on est portable en main et où on est passé directement. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire autrement à ce moment-là?
Ça, c'est hyper intéressant, la question du continent africain, et pardon de laisser essentialiser, de le prendre en bloc.
Oui,
mais,
oui.
Mais tout ce qu'on a expliqué sur la dualité des technologies, les ingérences, les opérations de désinformation, de manipulation, on l'a vu sur le combat informationnel entre la France et la Russie, qui a pris comme théâtre, en fait, le Sahel, par exemple, toute la zone du Sahel. Donc, ça pose d'énormes questions. Et la difficulté que l'Afrique a, qui est en fait exactement la même difficulté que l'Europe. C'est assez marrant, parce qu'on aurait pu croire...
L'Afrique et l'Europe, oui. On peut les rassembler.
Elles ont exactement aujourd'hui le même statut, le statut d'enjeu. Elles sont devenues un enjeu pour les techno-impérialismes, la Chine, les États-Unis et leurs géants technologiques, qui sont en fait leur extension de soft et de hard power, mais qui ont été incapables, l'une comme l'autre d'ailleurs, de faire émerger leurs propres acteurs technologiques, indépendants ou autonomes.
Et donc, Afrique et Europe, même combat. Il va falloir conclure là-dessus, ma chère Asma Mala.
Même combat. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est est-ce qu'on souhaite être finalement un objet ou est-ce qu'on aimerait bien reprendre le statut de sujet ? Donc prendre en main son destin.
Moi, je vote pour être sujet, évidemment. Et pour ce faire, chers amis auditrices et auditeurs, où que vous soyez sur Terre, en Europe ou en Afrique ou ailleurs, je vous renvoie sur cet ouvrage, votre essai à ce moment, La technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats, paru aux éditions du Seuil, à lire absolument. Et je propose de rester à ce moment-là pour un final, comment dire, astronomique du côté du continent africain. On va retrouver notre éphéméride mensuelle avec Sylvain Boulet, notre planétologue préféré. Mais juste avant, on va s'arrêter du côté du Cameroun avec Blik Bassi en musique. Extrait de la playlist de RFI, ce morceau au bas sur RFI. Bassi dans la playlist du mois sur RFI, à écouter sans modération pour redevenir sujet, n'est-ce pas ? Sous les étoiles exactement, car voici venu l'heure de notre éphéméride mensuelle avec l'ami Sylvain Boulet, planétologue et professeur à l'Université Paris-Saclay.
Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain, que pourra-t-on observer d'ici au 15 avril depuis le continent ?
Bonjour Caroline. Alors on a un beau programme ces prochaines semaines. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont jamais observé Mercure, eh bien c'est le moment, vous devriez l'apercevoir autour du 25 mars dans le ciel du soir, plein ouest, juste après le coucher du soleil. Concernant Jupiter, on en profite jusqu'à la dernière goutte car la planète est encore visible dans le ciel du soir. Je vous invite à observer un rapprochement avec un joli croissant lunaire le 10 avril après le coucher du soleil. Pour les autres planètes visibles à l'œil nu, eh bien Saturne, Vénus et Mars. Il faudra se lever tôt avant le lever du soleil pour observer les planètes dans les lueurs de l'aube. À noter un joli rapprochement entre Saturne et Vénus le 22 mars, un beau trio entre Saturne, un croissant lunaire et Mars le 6 avril et un rapprochement très serré entre Saturne et Mars le 11 avril.
Beaucoup de rapprochements en vue. Est-ce qu'il y a d'autres événements astronomiques à ne pas rater, Sylvain ?
Oui, Caroline. Alors ce mois-ci, je voudrais vous proposer des rapprochements entre la Lune et des étoiles brillantes, ce qui vous permettra d'ailleurs d'en apprendre leur nom. Alors tout d'abord, découvrez Castor et Pollux de la constellation des Gémeaux avec un premier quartier le 18 mars en première partie de nuit. Ensuite, le 21 mars, la Lune gibbeuse sera à côté de l'étoile Régulus de la constellation du Lion. On continue le 26 mars avec une Lune presque pleine à côté de l'étoile Spica de la constellation de la Vierge. Puis le 30 mars, en deuxième partie de nuit, une Lune gibbeuse décroissante se rapproche de l'étoile Antares de la constellation du Scorpion. Enfin, ne manquez pas le 11 avril au soir le rapprochement entre un joli croissant lunaire et l'amas ouvert des Pléiades, dont j'avais largement parlé le mois dernier.
Et ce mois-ci, cerise sur le gâteau, ou plutôt dans la lunette, une visiteuse pas comme les autres.
Oui, c'est la bonne période pour découvrir ce qu'est une comète, puisque nous aurons la visite de la comète Pons-Brooks durant les prochaines semaines. Alors je vous rappelle qu'une comète est un petit astre, mélange de glace et de roche qui tourne autour du Soleil sur une orbite très elliptique. Lorsqu'elle se rapproche du Soleil, eh bien elle dégaze et devient alors plus lumineuse. La comète Pons-Brooks a été découverte par Jean-Louis Pons en 1812 et redécouverte en 1883 par William Robert Brooks. Et les astronomes se sont alors rendus compte eh bien, qu'elle tournait autour du Soleil en 71 ans. Historiquement, cette comète aurait été déjà observée il y a très longtemps en Chine et puis au Japon, notamment en 1385. Mmh. Alors la comète, eh bien, pour la trouver, hein, elle est depuis quelques jours visible à l'œil nu. Hein, elle devrait gagner en luminosité jusqu'à mi-avril. Pour l'observer, vous devrez surveiller en début de nuit les constellations d'Andromède, du Triangle et du Bélier fin mars, puis entre le Taureau et la Baleine début avril. Elle devrait être visible à l'œil nu en avril, mais le mieux, eh bien, c'est d'utiliser une bonne paire de jumelles pour la détecter.
Comète en vue, un grand merci Sylvain Boulet, et on se retrouve le mois prochain autour du 15 avril avec une nouvelle lunette astronomique à gagner.
Oui Caroline, alors je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Pour participer, c'est très simple, envoyez sur notre page Facebook L'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit et le gagnant sera annoncé mi-avril. Alors bonnes observations, bon su à tous et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
Ah, c'est joli.
Merci, eh ben oui c'est joli à ce moment-là, vous êtes restés avec nous et moi je remercie Sylvain Boulet de nous rappeler chaque mois cette éphémérie du ciel d'Afrique que vous pouvez retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, en images sur la chaîne YouTube de RFI avec, on se le dise, une nouvelle lunette qui sera mise en jeu d'ici au 15 avril. Et puis évidemment, on ne peut pas se quitter sans vous rappeler le titre de l'ouvrage d'Asma Mala. Vous revenez bientôt, Asma, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tout ce qu'on
quand
voulait aborder.
Quand vous voulez, avec plaisir.
Technopolitique, c'est le titre. Comment la technologie fait de nous des soldats. C'est paru aux éditions du Seuil et c'est un ouvrage indispensable et inspirant. Ça ne fait pas de mal en ce moment.
Merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
Merci à vous.
Réécoutez Autour de la question sur l'application RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes de podcast.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain avec David Brocouet à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro, pour vous servir et pour continuer de réinventer notre rapport au monde, en renouant cette fois-ci nos liens avec les autres, tous les autres vivants sur Terre. Nous serons en compagnie du professeur Marc-André Sellos, spécialiste des symbioses, des associations à bénéfices mutuels, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors à demain, je vois Asma Mala qui va nous écouter aussi. Ça, c'est on est très
content. Mais parce que je parle de symbiose.
Dans la technopolitique. Merci Asma, merci pour demain. On attend avec impatience Marc-André Sellos. Merci à vous, chers amis auditeurs et auditrices. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.